RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Entre les week-ends prolongés et les vacances d'été qui approchent, un nombre d'entre vous partent ou vont partir à la découverte de l'Europe. En effet, selon des données de l'Organisation mondiale du tourisme de 2019, plus de 50% du tourisme mondial s'est effectué dans l'Union européenne et seulement 15% des touristes européens ont quitté l'Union européenne pour leur voyage. Ainsi, cette destination est souvent privilégiée par les Européens. En effet, voyager sur ce continent, et plus particulièrement au sein de l'Union européenne, apporte de nombreux avantages qui permettent de faciliter le séjour. Mais quels sont-ils ? Pour y répondre, nous accueillons aujourd'hui Ruben Despigneaux, ancien élève en Master Management Interculturel à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Limoges. Bonjour Ruben, merci d'être avec nous.
Bonjour Marie-Lou, merci de me recevoir.
Pour commencer, nous pouvons nous demander pourquoi est-il plus facile de se déplacer et séjourner au sein de l'Union européenne ? En effet, en résidant dans un des États membres de l'Union, les habitants deviennent des citoyens européens. Ce statut leur octroie des droits, dont la liberté de circuler et de séjourner dans les autres États membres. Mais comment cela fonctionne ?
Alors oui, effectivement, le droit à la libre circulation nous permet en tant que citoyens européens de nous déplacer librement entre différents pays. La durée de séjour peut éventuellement varier car tout dépend finalement des raisons pour lesquelles on se déplace. Ça peut être pour un Erasmus, un stage, un travail, des vacances. Ce qui est bien pratique, c'est que notre principal outil de voyage, hormis la valise bien entendu, c'est notre carte d'identité et uniquement. Car effectivement, pas besoin de passeport pour voyager au sein de l'espace Schengen. Alors bien sûr, chaque pays a ses propres demandes et exigences administratives. Je me rappelle, lorsque j'avais fait mon Erasmus en Espagne, j'avais dû avoir un numéro d'identification étranger. Je vais vous citer la définition du NIE, ça a été délivré par l'intermédiaire des postes consulaires qui permet d'effectuer en fait des démarches auprès des administrations publiques espagnoles, mais il n'autorise pas à résider en Espagne et n'est pas non plus un justificatif de résidence en Espagne. Donc on comprend bien que c'est un numéro nécessaire pour des démarches administratives. Par exemple, il peut être demandé lorsque vous louez un appartement, mais ce n'est pas une autorisation pour rester à long terme sur le pays.
De plus, lorsque votre séjour dépasse plus de 3 mois, même si vous n'avez toujours pas besoin de visa, il faut pouvoir justifier que vous disposez de ressources suffisantes. Par exemple, vous pouvez être amené à montrer que vous avez suffisamment d'argent sur votre compte bancaire pour pouvoir rester séjourner dans le pays et que vous souscrivez aussi à une assurance maladie. Dans certains pays de l'espace économique européen, EEE, après avoir dépassé la durée de séjour de 3 mois, il peut vous être demandé de signaler votre présence sur le territoire. C'est au cas par cas, ça dépend du pays dans lequel vous résidez. C'est pourquoi il est important de se renseigner sur le pays de destination avant de partir. Il est important aussi de préciser que si vous allez dans un pays hors Union européenne qui fait partie de l'espace Schengen, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège ou l'Islande, vous n'avez toujours pas besoin de visa. Mais qu'en est-il du Royaume-Uni ?
Alors, quand je suis allé au Royaume-Uni pour la première fois à Manchester, moi j'avais juste utilisé ma carte d'identité, mais c'était en 2019. En République d'Irlande, vous n'avez pas de soucis, rien ne change. Par contre, pour le reste du territoire, vous devez désormais disposer d'un passeport ainsi qu'un visa si votre séjour dépasse 6 mois. Et cette condition peut varier en fonction du motif de voyage. Ça ne s'arrête pas là. D'autres spécificités s'ajoutent à la frontière. En effet, vous devez être capable de justifier la raison de votre visite. Si le tourisme, par exemple, présentait votre billet de retour et la réservation de l'hébergement avec les dates, de vous suffire, bien sûr, financièrement pendant le voyage et de sortir du Royaume-Uni à la fin de la visite, en fait.
Une fois que nous connaissons les avantages à partir au sein de l'Union européenne, nous pouvons choisir notre destination et se préparer au voyage. Quels seraient les conseils à donner ou les choses à vérifier avant de partir ? Déjà, par exemple, on peut s'inscrire au niveau de la sécurité sur le site Ariane pour les séjours de moins de 6 mois afin de pouvoir être alerté en cas de risque dans le pays. Et plus de 6 mois sur le site servicepublic.fr des registres des Français à l'étranger. Mais quelles sont les autres choses à vérifier ?
Déjà, oui, Ariane, c'est très important de le faire, comme vous avez dit. Ensuite, oui, il faut notamment vérifier les risques, la santé, l'opinion politique, publique. Je pense notamment à la communauté LGBT dans des pays actuellement comme l'Italie ou même la Pologne. Voilà, il faut aussi bien choisir la ville, regarder notamment les classements, les feedbacks des touristes, vérifier la météo, c'est important. Si on préfère une météo un peu plus chaude, bon, bah, on sait où se diriger. Hein. Et bien entendu, la nourriture, il y a tout un tas de choses vraiment à vérifier avant de partir. Ce sont des choses simples mais importantes pour éviter, en fait, tout simplement les mauvaises surprises. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, car une fois, j'étais parti en Grèce, à Thessalonique, pour être précis, avec une amie, et c'est vrai que je m'étais pas du tout renseigné sur la ville dans laquelle j'allais atterrir. Elle m'avait proposé de l'accompagner, j'ai dit oui sans trop réfléchir, et j'avais une image de ce pays, et je pense que je ne suis pas le seul, hein, d'ailleurs, où je pensais arriver dans une ville qui ressemble à une carte postale, avec, vous savez, les maisons blanches, une nourriture très méditerranéenne, alors que finalement, de mon expérience, c'était pas tout à fait ça, c'était une ville qui finalement n'était pas toute blanche, hein. Je dirais même que les maisons restaient très classiques d'ailleurs, et j'avais même le ressenti qu'au moins une maison dans chaque rue ou chaque quartier était abandonnée, en ruine. Et au niveau de la nourriture, il y avait beaucoup de kebabs aussi. Il y en avait au moins un dans chaque quartier, surtout dans les quartiers un peu excentrés, hein, du centre-ville. Voilà, c'était assez marrant et surprenant pour moi qui n'étais pas forcément au courant de ce côté-là de la Grèce, en fait.
D'où l'intérêt de bien se préparer. Maintenant que tout est prêt, il reste à savoir comment se rendre à son lieu de vacances et se déplacer pendant le séjour. Puis-je conduire avec ma propre voiture et mon permis dans toute l'Europe?
Pour vous déplacer au sein de l'Europe, vous avez le choix entre avion, train, voiture, voilà. Pour le train, il y a des possibilités d'acheter des passes Interrail, qui est un pass unique, vous permettant d'utiliser les réseaux européens participants à volonté pendant, entre guillemets bien sûr, pendant un nombre de jours défini, de 4 jours à 3 mois. Attention, certains trains nécessitent une réservation des sièges, donc vérifiez avant de monter dedans, en fait. En ce qui concerne la voiture, vous pouvez vous déplacer avec votre voiture et votre permis dans tout l'espace. En effet, le permis des États membres est reconnu dans tout l'espace économique, ce qui permet un meilleur contrôle et une meilleure circulation lors des déplacements. Certaines conditions, par exemple un permis en cours de validation pour les permis délivrés après 2013, inférieur à 15 ans pour les citoyens français. Les certificats provisoires et les certificats de déclaration de vol, perte ne sont pas tolérés.
Est-ce que le code de la route est le même partout dans tout l'espace?
Alors, c'est un autre point à vérifier, bien sûr. Le code de la route peut différer selon les pays. En effet, certains États ne tolèrent aucun taux d'alcoolémie. La limite de vitesse varie, oui. Et certains roulent à gauche, par exemple à Malte, en Irlande, voilà. Cependant, les règles communes, par exemple le port de la ceinture obligatoire, être équipé de dispositifs de retenue suffisant pour les enfants, l'interdiction du téléphone au volant, reste globalement les mêmes dans les pays. Et puis même, sans même parler des autres pays, en France, par exemple, pour les touristes qui viennent depuis longtemps et qui roulent sur les routes nationales ou départementales, on est passé de 90 à 80 quand ce n'est pas signalé, puis maintenant il y a eu encore des changements. C'est vrai que si on n'est pas renseigné, c'est assez compliqué, quoi.
Tout à fait. Et maintenant qu'on sait qu'on peut se déplacer sur différents moyens de transport, qu'en est-il des bagages? Est-ce qu'on peut tout transporter? Est-ce qu'il y a des conditions? Si vous faites le choix, par exemple, de partir en avion ou en train, vos bagages seront plus limités ou il vous faudra payer des frais supplémentaires. En revanche, en voiture, vous pouvez vous disposer de plus d'espace. Quelles sont les contraintes, notamment en avion?
Si vous partez en avion, vous allez avoir un point limité en fonction du nombre de bagages que vous décidez de prendre. Par exemple, en cabine, vous aurez le droit à la majorité des compagnies aériennes, environ 10 kilos. En soute, cela peut aussi varier, vous aurez le droit à plus, évidemment, mais c'est généralement entre 20 et 25 kilos, en fonction des compagnies aériennes, encore une fois. Et non, vous ne pourrez pas tout transporter, et les produits transportables, en fait, varient selon les pays. Tout ce qui est liquide, par exemple, il ne faut pas généralement dépasser le seuil des 100 millilitres par produit. Tout produit alimentaire doit rester de l'autre côté des barrières lorsque vous passez le contrôle de sécurité. Vous serez aussi limité également sur l'alcool ainsi que sur le tabac. Par exemple, en Andorre, vous ne pouvez pas prendre plus d'une cartouche et demie de cigarettes. C'est un point, selon moi, qui est très important, car quelqu'un qui n'est pas au courant peut se voir, en fait, ses biens confisqués par la douane, sans parler des stupéfiants, où là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de tolérance. Et oui, comme vous le dites, en voiture, vous bénéficiez plus d'espace et vous êtes un peu plus libre, notamment en poids de bagages, en produits alimentaires.
Et en plus de pouvoir voyager facilement, on peut aussi communiquer plus facilement lors de nos voyages, notamment avec les frais d'itinérance qui ont été réduits.
Oui, c'est ça, exactement. Et pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée, parce que je me souviens d'un temps où je n'avais pas du tout Internet lorsque j'étais en vacances, par exemple au Portugal, en Italie, et c'était pas vraiment pratique. Heureusement que c'était que pour des vacances. Depuis, je me suis rendu compte que partir plus de temps ailleurs qu'en France et avoir 30 gigaoctets, voire 50 gigaoctets par mois, ça change la vie. C'est vrai, quoi. C'est si on utilise le GPS, si on utilise les réseaux, enfin c'est primordial. Tout en sachant que depuis 2017, oui, comme vous le dites, il n'y a plus de frais d'itinérance, ce qui signifie que le forfait que nous avons dans notre pays de résidence ne bouge pas quand nous voyageons et n'apporte pas de frais supplémentaires dans la limite d'une période donnée de 4 mois. Mais encore une fois, il faut se renseigner auprès des opérateurs.
Tout à fait. Et communiquer n'est pas le seul avantage. Pour finir, si vous tombez malade ou vous avez un accident, pas de panique, il existe des solutions. Au niveau de la santé, ce sera notre dernier point.
Et oui, c'est très important avant de partir, c'est d'avoir en fait la carte européenne d'assurance maladie qui peut être demandée directement sur le site Amélie. Et une fois que la demande est faite, il faudra compter environ 10 jours pour la recevoir.
Que permet cette carte ?
Elle nous permet de bénéficier d'une prise en charge pour les soins de santé médicalement nécessaires survenus à l'occasion de séjours temporaires dans l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège, Liechtenstein, en Islande, en Suisse et dans le Royaume-Uni. Il faut savoir qu'en fait, ces cartes sont donc délivrées gratuitement, elles sont nominatives et ont une validité en fait de 2 ans. De plus, elles couvrent les maladies chroniques ou préexistantes ainsi que la grossesse et l'accouchement. En revanche, ce n'est pas une carte qui vous servira lors de soins programmés, c'est-à-dire si vous vous rendez dans un pays dans le but de vous faire soigner, eh bien, elle ne marchera pas en fait. Et en ce qui concerne le rapatriement, cela ne se passe pas avec l'assurance maladie, mais avec l'assurance privée de chacun d'entre nous, en fait. Et ce sont également des points importants à voir avant de partir avec son assureur pour être sûr de quels sont les droits qu'on peut bénéficier en étant ailleurs, en fait. Et à noter, évidemment, que si vous n'avez pas demandé le remboursement de vos frais médicaux pendant votre séjour, vous pourrez toujours le faire en rentrant, en présentant vos factures à votre caisse d'affiliation. Et d'ailleurs, toutes ces infos sont toutes détaillées et facilement trouvables sur le site Amélie.
Eh bien, merci Ruben pour toutes ces informations qui permettront, je l'espère, aux auditeurs de pouvoir mieux se préparer au séjour européen. Et merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique où l'on se focalisera sur nos droits en tant que consommateurs européens. À bientôt.
Merci Marie-Lou.